mais que se passe-t-il?
Mais que se passe-t-il?
Oh, mais qu'est-ce qui se passe?
Des nouvelles du monde.
Monsieur, des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Le problème de l'action intellectuelle est difficile en grande partie à cause des journalistes.
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30.
Des nouvelles du monde.
Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans les nouvelles du monde pour ce mardi 21 janvier. Aujourd'hui, après donc une petite absence et un petit tour des informations, vous le savez certainement, à l'international, c'est un petit peu chargé. Du coup, je me suis dit qu'on n'allait pas faire ça et qu'on allait justement rester sur du local et des petites actus aussi, un petit peu qui donnent la pêche. En tout cas, des actions qui montrent qu'il ne faut pas baisser les bras. Donc, on va tourner pas mal autour des Cévennes et du sud de la France de manière plus générale. Tout d'abord, on va faire un petit retour, bilan sur cette grande manifestation festive qui a eu lieu samedi dernier à Ganges, où entre 300 et 500 personnes, selon les comptages, ont répondu présents à l'objectif de cet événement qui s'appelait « Bon anniversaire Simone » et qui a été aussi accompagné d'une journée spéciale sur les ondes de Radio Escapade. Donc quelques centaines de personnes bien présentes qui ont défilé pour le droit à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, et le retour de la maternité de Ganges, puisque cet événement célébrait à la fois les 50 ans de la loi Veil et aussi les 2 ans de fermeture de la maternité de Ganges avec son service d'obstétrique notamment. C'est dans les colonnes de Objectif Gare que j'ai trouvé un petit compte-rendu détaillé de cette balade à laquelle je n'ai pas pu être. Voici ce qu'on y lit. 2 ans et 1 mois après la fermeture de la maternité de Ganges et 50 ans et 1 jour après l'entrée en vigueur de la loi Veil sur l'IVG, 400 personnes ont donc manifesté à l'appel du collectif Maternité à défendre pour la réouverture du service avant que ne soit bâtie la future polyclinique. Des témoignages de femmes ayant vécu une situation de santé difficile ou un accouchement sur la route ou un parking ont jalonné le parcours. Pour le collectif Maternité à défendre, le centre périnatal de proximité, le CPP, ne pallie pas le manque de services sur le territoire. Ça fait donc plus de 2 ans désormais que la précarité des femmes enceintes ou autres s'est fortement accrue dans les vallées qui dépendaient de ce service. Je dis autres parce que on ne va pas dans un service obstétrique uniquement que pour accoucher, on y va aussi pour des suivis gynéco ou parfois des IVG. Donc voilà, des témoignages sont remontés régulièrement de femmes ayant dû accoucher dans leur voiture ou ayant eu le flair de ne pas rentrer chez elles et d'attendre sur le parking d'un hôpital à Montpellier. Ce collectif donc continue de discuter avec l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, même si pour l'instant ils ne se sont pas vus depuis 10 mois et que depuis la fermeture de la maternité, le dialogue n'est pas très riche. C'était d'ailleurs la dernière réunion en mars 2024, c'est ce qu'expliquait Bruno Canard, qui est animateur à la radio mais aussi membre de ce collectif Maternité à défendre. Il en est un des porte-parole et il explique que l'engagement pris au mois de mars, justement par l'ARS, c'était d'organiser une réunion avec tous les professionnels du centre périnatal de proximité et les sages-femmes du territoire. Mais cette réunion ne s'est pas faite et le centre périnatal de proximité n'a pas été renforcé du tout. Aucune IVG n'y est pratiquée et il demande donc au moins que l'ARS tienne ses engagements. L'obstétrique devient ainsi un sport de combat dans les Cévennes et pour lui, le sentiment grandit que sur les 4 communautés de communes concernées, les élus n'y croient plus. Et en plus de ça, il y a eu quelques changements liés aux dernières législatives. Sur place, donc les 2 députés qui étaient insoumis dans le Gard et dans l'Hérault et qui participaient aux manifestations avant la dissolution du gouvernement ont perdu leur siège hein, et leur remplaçant étiqueté Rassemblement National n'était pas présent à cette manifestation, à savoir qu'il n'était peut-être pas forcément très bienvenu non plus, puisque les positions de ce parti d'extrême droite, notamment concernant l'IVG, sont bien loin et diamétralement opposées de celles de la cause féministe. Sébastien Rome, l'ancien député de l'Hérault, était quand même présent, ainsi que la maire de Dourby, Irène Lebeau, qui est la suppléante du député gardois déchu Michel Salat. Étaient présents aussi les maires des communes de Trèves, Mandagou ou Saint-Laurent-le-Minier, avec leur écharpe tricolore en bandoulière. Bruno Canard, donc pour le collectif Maternité à défendre, explique alerter que le collectif souhaite d'alerter pour qu'il y ait une vraie réflexion et un comité de pilotage pour la maternité dans la nouvelle clinique, qui n'est toujours pas sortie de terre. On est conscient, dit-il, de l'argument médical, qui est celui que les gynécologues sont difficiles à trouver, notamment dans les structures de petite taille. Mais, dit-il, il faudrait déjà revaloriser les gardes et encadrer l'intérim. Pour lui, instaurer une contrainte d'installation pourrait par exemple être envisagée, une contrainte d'installation dans un territoire donné. Ça serait à l'ARS donc de serrer un petit peu la vis, au moins pour un certain temps, histoire de remettre de l'activité. Et pour lui, ça serait logique pour que vivent ainsi les petites maternités, puisque cette situation, vous le savez, n'est pas exceptionnelle à la commune de Ganges. C'est tout un modèle en fait qui arrive un petit peu à terme avec les logiques comptables d'un côté et la disparition des services publics de l'autre, notamment dans les zones rurales. Le collectif craint donc qu'au final, et malgré une subvention de 33% de l'ARS qui a été versée pour la création d'une nouvelle maternité, eh bien que celle-ci ne voit jamais le jour dans la nouvelle polyclinique. Ça serait possible avec les mêmes arguments, donc qu'il n'y a pas de gynéco si les conditions n'ont pas évolué. Donc il pourrait y avoir une nouvelle clinique à Ganges, mais toujours pas de maternité. Voilà en gros les grands arguments qui ont été rappelés donc, au cours de cette grande manifestation festive. De nombreuses prises de parole ont émaillé le parcours. Et il a été rappelé notamment qu'1 million de femmes se font avorter chaque année en France et que, en gros, bah, service ou pas, les avortements continueront d'avoir lieu, peut-être même avec la crainte de se retrouver de nouveau dans les situations d'avortement illégal qu'ont connu notamment la France et certaines, peut-être de nos auditrices, hein, jusqu'aux années 70. Et dans de nombreux pays encore du monde, ça continue puisque le droit à l'IVG est en fort recul dans de nombreuses régions du monde. Coralie Joly de la CGT du Végan qui était présente et a expliqué, elle, que pas moins de 130 IVG ont fermé ces dernières années sur le territoire français. Un autre syndicat était présent au Sud avec Priscilla Manzanares et elle a appelé à se battre contre les personnes qui veulent remettre en cause ce droit. Voilà une manifestation qui s'est continuée avec chants et slogans et le cortège s'est dirigé ensuite vers la mairie. Je vous laisse, si vous souhaitez creuser cette question et que vous n'étiez peut-être pas branché à votre poste vendredi dernier, nous avons fait une journée spéciale avec des documentaires, mais aussi des interviews donc, de tous les collectifs qui ont organisé ou qui étaient présents à cette manifestation. Donc vous avez sur le site radioescapade.org une actualité avec laquelle vous pourrez facilement, en 2-3 clics, retrouver tous les podcasts et écouter donc un petit peu plus précisément les chiffres sur la situation générale ou sur ce qui se passe sur notre territoire. Et d'ailleurs, on en profite pour relayer un appel à témoignages qui circule notamment sur les réseaux sociaux depuis quelques jours et qui est tout à fait dans la même ambition de redonner, on va dire, des droits et des services publics et aussi de la visibilité aux luttes féministes ou LGBT sur le territoire. Voilà. On lit donc appel à témoignages. Tu es habitant ou habitante du Sud-Cévennes, Ganges ou le Vigan ? En vue de la création d'une antenne de l'association du planning familial dans le secteur, on cherche à recueillir des témoignages qui montrent les besoins du territoire sur les questions de sexisme, de phobie LGBTQIA+, sur l'éducation à la vie relationnelle ou sexuelle, les violences de genre et les violences sexuelles, l'IVG, la contraception, la santé sexuelle, etc. Bref, tous ces domaines dans lesquels le planning familial fait un travail assez remarquable. Il y a eu aussi d'ailleurs sur notre antenne une interview du planning familial, l'antenne de Saint-Jean-du-Gard, qui sont venus expliquer justement tout ce qu'ils font. Le communiqué continue ainsi. Quel que soit ton genre, ton orientation sexuelle, ado, adulte, élève, parent d'élève, usager de services en tout genre, bénévole, usager d'associations culturelles, sportives ou solidaires, travailleur du secteur médico-social ou d'autres secteurs, Si tu as été confronté à des dysfonctionnements, des difficultés d'accès aux soins ou à l'information, un manque de soutien ou de considération, l'absence de prise en compte de ces questions, si tu as eu du mal à trouver des ressources, un espace où t'exprimer ou que tu as constaté un besoin, quel qu'il soit, sur le territoire, ta parole est nécessaire. Envoie-nous tes mots ou contacte-nous pour qu'on recueille tes propos. Voilà, donc ces témoignages, je pense, vont venir appuyer aussi peut-être un dossier pour monter cette antenne donc locale sur le côté du Vigan pour le planning familial. Vous avez un mail donc pour leur écrire, ça s'écrit planningfamilial-sudseven@tutamail.com, tutamail.com, et ils ont également un compte Instagram, donc @planningfamilial-sudseven, voilà. Et ce communiqué circule notamment, moi je l'ai aperçu sur Facebook, voilà. Donc si vous le trouvez, vous pourrez le faire tourner aussi à qui de droit. On continue avec les initiatives sur le territoire et la création d'un syndicat. Ah pardon, Julie est en train de me faire un correctif. Il n'y a pas eu d'antenne planning à Saint-Jean. C'était un escapadez-vous avec le planning de Montpellier et un avec la Sexomobile qui sont vers Saint-Jean-du-Gard. Il n'y a effectivement pas non plus d'antenne là-bas. Ma langue est fourchée, j'ai été un petit peu trop ambitieux. Voilà, on continue donc avec la création d'un syndicat de gardiens et gardiennes de troupeaux en Cévennes qui s'est fait donc à la fin de l'année 2024. Un nouveau syndicat de bergers salariés donc en Cévennes a été créé, puis rejoint, et rejoint donc ainsi les syndicats des gardiens de troupeaux qui sont affiliés à la CGT et qui existaient eux déjà dans les Alpes et les Pyrénées, aussi en Isère, dans la région PACA, le massif des Pyrénées. Donc le syndicat des gardiens de troupeaux, c'est SGT, et ils étaient réunis en fin donc du mois de décembre à Pondéreau pour un week-end d'organisation et pour peaufiner donc les dernières lignes de ce projet. De nombreux enjeux importants donc avec la création de ce syndicat en Cévennes. L'idée, c'est un syndicat, donc c'est surtout de défendre et de faire évoluer les droits du travail des salariés agricoles et des gardiens de troupeaux. Une commission paritaire devrait se réunir pour des négociations avec les syndicats patronaux agricoles dans le courant du mois, de ce mois de janvier. Et l'un des enjeux importants donc, pour le syndicat, c'est que les conditions de travail des gardiens et gardiennes de troupeaux soient harmonisées et ne dépendent plus du bon vouloir des employeurs. Face aux syndicats patronaux qui refusent de faire avancer la situation des salariés agricoles, gardiens de troupeaux, la plupart se retrouvent dans une précarité inadmissible pour les revenus salariaux et conditions de travail, de logement, la protection des salariés dans un métier qui présente parfois du danger pour la santé. C'est une des bergères qui était présente à cette réunion qui expliquait donc ses motivations. Des dates doivent donc encore être fixées pour 2025 pour des négociations et obtenir donc pleine satisfaction. Plus précisément, continue cette bergère, nous parlons d'élevage ovin, caprin et bovin, donc moutons, chèvres et vaches. Les contrats de travail sont souvent saisonniers, précaires et mal payés. Ils ne permettent pas de vivre décemment. Elle explique par exemple vivre donc en Cévennes pendant l'hiver et l'été dans les Alpes. L'hiver en contrat d'hivernage et l'été en estive. Dans les Alpes de Haute-Provence, voilà 4 ans que la mise en conformité de l'avenant territorial sur les salaires et les conditions de travail est en cours. Cette mise en conformité donc supposée harmoniser la nouvelle convention collective nationale du travail agricole et également le texte départemental pour retenir donc les éléments favorables aux salariés. Et bien cette mise en conformité donc tarde, n'a toujours pas été aboutie et tout cela empêche les négociations. L'AFDSEA, donc le syndicat patronal agricole, retarde le processus, dit-elle, avec notamment des annulations répétées des réunions prévues, des contre-propositions qui remettent en cause les acquis favorables aux salariés. Donc les gardiens et gardiennes de troupeaux ne se sentent pas appuyés par la FDSEA. Ils jouent l'épuisement des salariés et font traîner pour que rien n'aboutisse. Ils ne respectent aucun accord. Pour les gardiens de troupeaux, dans les estives, dans les vignes, les collines l'hiver, nous subissons des conditions bien en deçà de ce que la loi exige, à savoir des salaires misérables, des logements souvent insalubres et aucune charge de la fonction prise en compte. Nous travaillons et ne pouvons vivre de notre travail. La misère et la précarité se généralisent. Nous avons besoin de droits et de salaires dignes. Nos syndicats de gardiens de troupeaux se battront pour rétablir une justice conclut cette bergère. Voilà. Il y a un site internet qui a été monté donc, pour le syndicat au niveau national, c'est sgtcgt.noblogs.org. Ils ont également une page Facebook et on espère les recevoir très prochainement à cette antenne pour que justement ils nous expliquent un petit peu plus en détail comment ça se passe.
Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros.
On en a gros.
On part pas très loin des Cévennes et puis surtout vers Marseille, mais avec une info qui concerne les Cévennes, puisqu'on parle de la filière du bois. Vous vous rappelez de la centrale E.ON de Gardanne, qui avait fait pas mal remuer dans les chaumières et qui avait mobilisé pas mal d'énergie. Finalement, cette centrale avait été stoppée, en tout cas suspendue. Eh bien, elle vient de reprendre du service. C'était ce 15 janvier. La centrale, donc à biomasse, désormais à biomasse de Gardanne, redémarre, et ce, en l'absence d'une nouvelle enquête publique. Pourtant, la justice avait imposé justement l'établissement de cette enquête publique, et au passage, la centrale a bénéficié d'une aide de 800 millions d'euros sur les 8 prochaines années. Ça fait 13 ans que cette centrale devait être convertie, donc c'était une ancienne centrale à charbon, et elle devait donc passer en centrale à biomasse, donc à une centrale qui va brûler du bois. Eh bien, ça fait donc 13 ans qu'elle a été annoncée, mais pas mise en service. Cette fois-ci, elle est peut-être bien partie donc, pour fonctionner. On est à Gardanne, c'est derrière Aix-en-Provence, entre Marseille et Aix. C'est la plus grande centrale à biomasse de France. Et elle s'est remise en branle, en tout cas ce 15 janvier, après 2 ans et demi d'interruption. C'est l'industriel Gazelle Energy, une filiale française du groupe du milliardaire tchèque Daniel Křetínský, qui avait donc stoppé la production à l'époque pour négocier avec le gouvernement, dans le but d'obtenir un tarif préférentiel de rachat de l'électricité. On est toujours sur ces situations un petit peu ubuesques d'attendre justement de l'ouverture à la concurrence de la vente d'énergie. On était fin 2024 et c'était Olga Givernet, ça vous dit peut-être rien comme nom, c'était la ministre de l'énergie mais elle est restée qu'un trimestre, hein, comme tout le gouvernement Barnier. Elle s'était rendue donc sur place à Gardanne pour annoncer un bonus accordé à cet industriel, à savoir donc les fameux 800 millions d'euros sur 8 ans. Pour cette ministre, la faveur était justifiée notamment par la sauvegarde de l'emploi, à savoir les 90 emplois sur site, et aussi l'activité qui en découle au niveau du port de Fos-sur-Mer, à savoir les dockers qui déchargeaient le bois d'importation. Parce que oui, le plus cocasse, c'est qu'on importe du bois pour faire tourner cette centrale. Gazelle Energy va vendre son électricité 3 fois le prix. C'est Tranglais Luc Lemouel, qui est coprésident de l'ALNP, c'est l'association de lutte contre toutes les formes de nuisances et pollution. Ce militant dénonce un cadeau d'autant plus scandaleux qu'il est annoncé en pleine période de coupe budgétaire. Et ainsi, plusieurs associations locales ou de défense des forêts continuent de fustiger la méga centrale, source d'industrialisation de la forêt. Ce tarif de l'énergie vient couvrir les coûts de production. Dans un contexte d'inflation des prix de combustible, il est strictement encadré par la loi et par un contrôle de l'autorité de régulation de l'énergie, rétorque de son côté Gazelle Energy dans un mail qui a été envoyé au journal Reporter, hein, qui a réalisé cette enquête. Le nouveau contrat prévoit 4000 heures de fonctionnement par an, en particulier au cœur de l'hiver, pour répondre à la hausse saisonnière de la demande en électricité. Cette durée donc des 4000 heures, c'est 2 fois moins que ce qui était écrit dans l'ancien contrat. Et parallèlement, ça fait un volume de bois 2 fois moindre. On serait à peu près sur 450 000 tonnes de bois prévues à la consommation contre 850 000 tonnes dans les projections initiales. L'industriel va donc recevoir de l'argent public, hein, ces fameux 800 millions d'euros, pour produire bien moins que prévu. Et c'est pas tout, hein. Une deuxième largesse, hein, sous forme de déni de justice, a été offerte à l'industriel par les autorités. La centrale, donc comme je vous le disais, va en effet pouvoir tourner et fonctionner sans respecter plusieurs règles, notamment les conséquences sur les ressources forestières, qui sont quand même au cœur de cette discussion. Ça fait 6 ans que des procédures ont été engagées par les opposants. Eh bien, la Cour administrative d'appel de Marseille, en novembre 2023, a intimé à l'industriel l'ordre donc, de prendre en compte les conséquences environnementales des forêts où il se fournissait. Et donc, une nouvelle étude d'impact a été demandée pour se mettre en conformité avec cette décision. Cette nouvelle étude d'impact devait être assortie, normalement c'est obligatoire, d'une enquête publique. et ce dans un délai d'un an à la date de l'arrêt de la cour administrative. C'est donc une enquête à mener sur le territoire français, sur les 17 départements concernés dans le sud-est, où sont censées se faire les coupes forestières. Et ça inclut notamment les Cévennes. Ça va jusqu'à l'Ardèche, en passant par les Alpes de Haute-Provence, etc. Une espèce d'arc de cercle tout autour de Gardanne. Ce qui en faisait d'ailleurs une centrale plutôt bien placée dans cette idée de s'approvisionner localement. Mais en plus de ça, donc là c'est pas précisé, mais on avait à l'époque... remarquer qu'une partie du bois venait localement, dans des conditions pas forcément, très opaques, et le reste était importé, donc par bateau, depuis notamment, le Canada, la Chine ou le Brésil, voilà. Bon, si on revient sur l'enquête publique, donc environnementale en France, elle se fait encore attendre, elle n'a toujours pas été publiée, et le délai est déjà dépassé depuis 3 mois, donc théoriquement, la centrale ne devrait pas avoir le droit de démarrer. La définition tant de la consultation du public que de la consultation des collectivités et des groupements concernés est en cours de finalisation, les périmètres, les durées, les modalités, etc. C'est ce qu'a répondu la préfecture PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur. En attendant, la centrale donc jouit d'une autorisation préfectorale dérogatoire. Tout cela est antidémocratique. Au sujet du respect de l'état de droit, on se pose aussi des questions, explique Nathalie Chaudon, qui est directrice de France Nature Environnement pour la région PACA. C'est une des associations, justement, qui a porté ce dossier devant la justice. Pour elle, donc, tout cela est lamentable. Cette unité industrielle ne devrait même pas exister. Elle est responsable de déforestation importée, puisque vous imaginez bien que, si en plus on s'intéresse à ce qui se passe du côté des forêts chinoises ou canadiennes ou autres, et plus les transports en bateau, au niveau écologie, on n'est pas au top. Nathalie Chaudon, donc toujours pour FNE PACA, rappelle d'ailleurs le peu d'efficacité énergétique de cette centrale, hein. Un rendement de 29%, ce qui est assez ridicule, car l'énergie donc, qui est dégagée par la combustion de 2 arbres sur 3 consommés n'est pas valorisée sous forme d'électricité. Il est pour eux inopportun de maintenir cette industrie. Et du côté de France Nature Environnement PACA, on préférerait que l'effort public soit engagé dans la formation et l'accompagnement des salariés vers d'autres activités. Nous ne sommes pas anti-industrie, conclut-elle, mais il faut qu'elles aient du sens.
Non mais n'importe quoi, non mais...
Et on vient faire un petit tour en miroir de cette info avec une réunion publique qui a lieu pour une collecte de fonds, et c'est du côté du Vigan, et ça concerne l'installation de la 3e centrale photovoltaïque citoyenne sur donc le pays viganais. C'est la coopérative citoyenne énergétique qu'on avait déjà reçue à ce micro, qui continue donc son travail en partenariat avec la communauté des communes du pays viganais, la région Occitanie, et la coopérative ACTTE, ce qui veut dire accélérateur citoyen pour un territoire en transition. Il lance donc une collecte de fonds pour financer l'installation de la 3e centrale photovoltaïque citoyenne sur le territoire viganais. Alors le rendez-vous sera d'ici une petite quinzaine de jours, le mercredi 5 février à 18h à la salle du Cantou, donc au Vigan. L'idée, c'est donc d'informer et d'expliquer la production d'électricité verte renouvelable en autoconsommation. Le principe donc, de cette centrale photovoltaïque, c'est déjà d'être installée sur des toits, sur la toiture de la Allosport du Vigan. Et cette toiture, donc installée en panneaux solaires, permettra de produire de l'électricité verte et d'alimenter directement plusieurs bâtiments qui appartiennent à la communauté des communes, par exemple la piscine, la maison de la petite enfance, la maison de l'intercommunalité, etc. C'est pour eux un projet, c'est donc un projet d'intérêt général et un financement collectif, hein, environ 60 000 euros sont visés. L'autoconsommation est un argument fort, explique toujours ce communiqué, en faveur de la sobriété énergétique, puisque c'est économique, écologique et fédérateur, et cela peut concerner tout le monde, d'autant plus quand il s'agit de bâtiments et de finances publiques. Voilà, Énergétique propose donc à tous les citoyens de participer concrètement à ce projet, qui est pour exemplaire au niveau régional, en mettant une partie de leur épargne au vert. La coopérative propose un placement financier alternatif et engagé, et vous pouvez souscrire à une ou plusieurs parts sociales, sachant qu'une part sociale, c'est environ 50 euros. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que dans cette... c'est une SCIC, le format juridique. Donc elle s'appelle SAS Énergétique. Il y a déjà plus de 200 souscripteurs qui ont adhéré au projet. Et le citoyen sociétaire est au cœur donc, du fonctionnement de la coopérative grâce à une gouvernance partagée et transparente et également dans le financement. Donc voilà pour ce petit appel à contribution et c'était l'occasion aussi de mettre un petit coup de projo sur cette initiative. Énergétique, c'est une coopérative citoyenne hein, donc, qui a donc pour objectif de donner la possibilité à toutes et tous de se réapproprier les questions d'énergie en pays viganais. Et donc concrètement, vous l'aurez compris, avec l'installation de panneaux photovoltaïques sur les toits des bâtiments, ce qui permet de produire de l'énergie renouvelable en organisant des temps de découverte et d'échange autour de l'énergie. Et c'est bon de se rappeler que le photovoltaïque, ça peut aussi exister comme ça, en cette heure où justement bah, toute la région fait un petit peu office d'Eldorado pour l'agrovoltaïsme. Depuis la création d'Énergétique, ce collectif citoyen a déjà contribué donc à la mise en service de 2 centrales de production. On en est donc à la troisième avec ce troisième volet. À savoir, aujourd'hui, ils sont déjà donc équipés la toiture de la ressourcerie Dupont et également celle de la SCI Castagne, donc le magasin Biocoop du Vigan. Donc, tout ça pour vous annoncer cette réunion publique le mercredi 5 février, 18h à la salle du Cantou. Et voilà, vous pourrez donc poser toutes les questions si vous en avez. Dans l'Hérault, le préfet a interdit toutes les free parties pour toute l'année 2025. Un nouveau décret, donc un arrêté, début janvier, interdisant les soirées techno illégales sur tout le département de l'Hérault, avec comme justification eh bien, de prévenir des risques de nuisances sonores ou de préservation de zones classées Natura 2000. Certains acteurs du mouvement techno et des free parties s'interrogent sur la légalité de ce texte. Et il milite pour un dialogue entre les organisateurs de ces événements et les collectivités. C'est un article de Elian Barascu, pioché dans les colonnes du journal Le Point avec un G à la fin. Un arrêté similaire avait déjà été pris l'an dernier. Eh bien, le préfet de l'Hérault, à savoir François-Xavier Lauche, réédite cette fois-ci pour toute l'année 2025, en interdisant donc toute free party, ça veut dire une soirée techno qui se tient généralement dans la nature, ce sur tout le département. Et l'arrêté s'étend également au transport de matériel sonore, à savoir des enceintes, des amplis ou des tables de mixage, et ce, dans des véhicules sur les réseaux routiers du département. Leur saisie par les autorités en est donc facilitée. A noter que les saisies de matériel sonore existent déjà dans les free parties, elles sont autorisées depuis 2001, notamment avec l'amendement Mariani de la LSQ, la loi de sécurité quotidienne. Cette loi qui avait été votée après les attentats du 11 septembre. Cet amendement stipulait que des rassemblements étaient possibles, mais uniquement sur autorisation avec la préfecture. Et concrètement, dans les faits, les free parties ne sont jamais autorisées par l'État. Et d'ailleurs, les collectifs organisent ces soirées dans l'illégalité, souvent même sans faire de demande. Certains ne le font pas d'ailleurs par conviction, puisque ce mouvement est en partie issu de la pensée libertaire et cherche à prouver que la fête peut s'auto-organiser sans l'État et sans commerce. Il s'inspire notamment du concept de ZAT, la zone d'autonomie temporaire, qui avait été théorisée à l'époque par le penseur anarchiste Hakim Bey. Voilà pour les petites références idéologiques. Dans tous les cas, donc, ce nouvel arrêté pris par le préfet de l'Hérault relève plus du message politique adressé à la jeunesse que d'un texte réglementaire, puisqu'une loi encadre déjà ces événements. Le préfet de l'Hérault justifie la décision par le fait que ces événements se déroulent régulièrement dans des zones sensibles, hein, par exemple des sites classés Natura 2000, et qu'ils sont préjudiciables pour l'environnement. Il évoque également, bien sûr, les nuisances sonores et la consommation excessive de drogue et d'alcool. Par cet arrêté, le préfet répond aussi, et peut-être et surtout, à des attentes de maires ou de riverains de certaines communes de l'Hérault, par exemple à Joncelles, à côté de l'Audève, sur un plateau éolien, donc un plateau jonché d'éoliennes, qui était un lieu très prisé de ces dernières années pour tous les teufeurs. Entre juillet et août 2023, pas moins de 6 free parties ont eu lieu là-haut. Dans ce village de 300 habitants, donc, on en a marre un petit peu de ces débarquements, et un collectif s'est monté pour se plaindre des nuisances sonores, mais également pour se plaindre des dégradations, et notamment des terres agricoles. Concernant ce décret, donc, cet arrêté, l'association La Libre Pensée sur Montpellier en dénonce la politique très répressive en direction des organisateurs de free party. Cette politique se traduit notamment par le déploiement d'agents DRG, des renseignements généraux, pour surveiller les organisateurs, des écoutes téléphoniques, mais également l'envoi de policiers qui parfois mutilent des fêtards. On se rappelle de la Free Party de Redon en 2019, avec un jeune homme qui a eu la main arrachée par une grenade, ou parfois même qui cause des morts. On se rappelle de la mort du jeune Steve, retrouvé noyé à Nantes après l'intervention de la police lors de la fête de la musique, c'était en 2020. L'association La Libre Pensée toujours donc souligne qu'il n'y a pas plus de risques dans les rave parties que dans toutes les fêtes où beaucoup de gens se rassemblent et font la fête, comme cela a été démontré, il y a des études quand même sur le sujet. Et si on s'intéresse à l'usage des drogues particulièrement, les travaux de la sociologue Emmanuelle Waraud comparaient justement ces espaces festifs, techno, légaux et encadrés, par exemple les clubs ou les boîtes de nuit. N'oublions pas quand même que c'est un énorme business. Et il comparait ça donc aux free parties. Cet article a été publié en 2007 et elle notait notamment que l'invisibilisation du trafic et de la drogue dans ces espaces légaux, par exemple pour pas se faire attraper par les vigiles ou par la police, eh bien que cette invisibilisation tendait à accentuer les risques, que ce soit les risques d'overdose, de mauvais mélange, de bad trip, et on peut rajouter aussi les drogues qui servent à ceux qui souhaitent abuser sexuellement d'autres fêtards ou fêtardes. Et cela alors qu'en free party, donc où la drogue n'est pas tabou, l'usager est plus enclin à échanger avec ses pairs ou avec les associations de réduction des risques, les fameuses RDR qui sont présentes sur place. Cela limiterait ainsi les abus. Si on revient sur ces RDR, ce sont les acteurs donc de la réduction des risques en free party. Ils distribuent par exemple sur leur stand des préservatifs, des bouchons d'oreilles, des éthylotests ou prodiguent des conseils. Ils sont, eux, les premiers justement à déplorer la répression dont ils font l'objet. Plusieurs de ces associations spécialisées ont signé en 2020 une tribune où elles déclaraient la gestion répressive de ces événements majeure les risques auxquels sont soumis les participants. Les soirées se font toujours plus loin dans des zones reculées, cela complique l'accès de secours et les organisateurs hésitent parfois à appeler les secours tant les risques judiciaires sont importants pour eux. Parmi les acteurs du secteur, on peut citer aussi dans cet article Freeform. C'est une association qui fait de la médiation entre l'État et les organisateurs de ces fêtes. Le directeur Samuel Raymond constate que l'Hérault est le département de France où il y a le plus de free parties et on n'a jamais vu d'arrêté aussi extensif jusqu'alors ailleurs dans le pays. Cet asso d'ailleurs se dit étonné de la position de la préfecture, et là c'est carrément la légalité de l'arrêté qui est questionnée, alors que plusieurs échanges ont lieu déjà entre le ministère de l'Intérieur et ce qui s'appelle la Coordination Nationale des Sons. C'est une coordination qui regroupe justement ces organisateurs de free party, donc des interlocuteurs pour l'État. Il y a un groupe de travail dans cette coordination qui s'interroge sur la légalité de l'arrêté. Parce qu'en effet, normalement, un arrêté préfectoral doit se prendre dans des circonstances particulières, pour un temps donné, par exemple pour des motifs de risque incendie, en période de canicule, ou quand quelque chose a été annoncé, mais pas de manière préventive sur toute une année. Et de plus, cet arrêt, il interdit aussi le transport du matériel sonore, et ça pose une grosse question au niveau des libertés, hein, qui s'étend bien au-delà des free parties. Par exemple, des gens qui organisent une soirée tout à fait légale, une soirée sous le système reggae, par exemple, comme certains de nos bénévoles ont à cœur d'organiser, eh bien ceux-là, eux aussi, peuvent se faire contrôler sur les routes de l'Hérault, parce qu'ils transportent du matériel sonore et se le faire donc confisquer. Pour Samuel Raymond, donc toujours de cette association Freeform, ces arrêtés ne font finalement que déplacer le problème, et vous allez voir que ça peut même dépasser largement les frontières du département. Il explique ainsi constater que les sound systems de l'Hérault vont juste plus loin maintenant pour organiser leurs fêtes, à savoir chez les voisins du Tarn et de l'Aveyron par exemple, qui ont des beaux plateaux qui s'y prêtent très bien, et ainsi eux aussi maintenant, le Tarn et l'Aveyron, ont dû prendre des arrêtés préfectoraux pour interdire les free parties. Ils avaient déjà vu ça en Angleterre en 1994, quand Margaret Thatcher a tout bonnement interdit les free parties, et bien les organisateurs sont venus essaimer le mouvement en France, pour le plus grand plaisir d'ailleurs des amateurs de son techno. On se rappelle notamment de l'arrivée des tribales, des spirales pardon, sur le sud de la France. Plus récemment en Italie d'ailleurs, pour illustrer tout cela, le gouvernement de Giorgia Meloni a interdit les free parties, et donc maintenant les Italiens viennent poser du son sur le territoire français. La solution, c'est le dialogue et la co-construction avec les autorités, surtout dans un territoire pauvre, avec un gros vote RN, comme dans le nord de l'Hérault. Les jeunes qui ont peu d'argent et qui veulent juste faire la fête et s'amuser pour pas cher se tourne donc vers cette solution des free parties. Donc pour lui, c'est important qu'il y ait ce dialogue. Le dialogue, vous l'aurez compris, entre les maires, les services de l'État et les organisateurs peut parfois être compliqué. Le sénateur de l'Hérault, Henri Cabanel, avait bien essayé à partir de 2015, hein, pendant 8 ans, de réunir tout le monde autour de la table. L'idée, dit-il, c'était d'établir une charte où chacun pourrait noter ses besoins et ses devoirs. Au début, la préfecture ne le prenait pas au sérieux, mais le sous-préfet de l'Odève m'avait soutenu, explique-t-il, et ainsi avait pu tenir une réunion avec toutes les parties prenantes, y compris la gendarmerie et les services de secours. Et un maire était même prêt à céder du terrain pour faire un événement légal. Finalement, c'est la gendarmerie et le SDIS qui ont refusé et qui ne voulaient pas prendre cette responsabilité. Ce qu'on constate aujourd'hui, donc pour Henri Cabanel, c'est que tout ça n'a pas empêché que cet événement ait lieu. Et aujourd'hui, pour sa part, il considère que le dialogue est au point mort. « Je regrette, dit-il, parce qu'on y était presque. Moi, j'arrête de faire le Don Quichotte s'il n'y a pas une volonté locale de s'écouter et de se comprendre. J'abandonne. »
Les béton.
On termine ces nouvelles du monde. On a bien débordé avec une petite brève, une petite bonne nouvelle. Une espèce strictement protégée, à savoir le castor d'Europe, a été observée à proximité du chantier de la 69. Vous savez, l'autoroute Toulouse-Castres, c'est ce qu'on a appris hier, et c'est l'association La Voie est libre qui s'oppose à ce projet d'autoroute qui a révélé l'information. La présence donc du castor a été révélée sur la commune de Cuc-Toulza et elle a été attestée par les services de l'OFB, l'Office français de la biodiversité, ainsi que par les services du Muséum d'histoire naturelle de Toulouse. Alors qu'aujourd'hui, le juge des référés doit justement se prononcer sur une possible suspension en urgence du chantier, cette découverte est majeure et vient donc appuyer la demande des opposants. Nous demandons que les atteintes portées à l'espèce et à ses milieux soient immédiatement interrompues, insiste-t-il. Ce mammifère, donc le castor d'Europe, est depuis quelques années de retour en Occitanie. Sa population est actuellement en pleine dynamique de recolonisation naturelle et sa progression le long de la rivière du Tarn et de ses affluents fait l'objet d'une surveillance étroite par les services de l'État. Le retour du castor vient donc désormais buter sur le chantier de la 69. Cela n'a pas été anticipé par ses promoteurs, puisque le castor n'est pas mentionné dans les études environnementales et les mesures qui doivent limiter les conséquences sur la biodiversité. Eh bien, tout cela, justement, c'est ce que mettent en avant les opposants, notamment un ruisseau qui alimente l'habitat du castor, qui est potentiellement lui-même habité, qui doit être rescindé à quelques dizaines de mètres en amont avec des conséquences potentiellement irréversibles. Voilà, on a parlé free party, autoroute, on se quitte donc de manière un petit peu plus légère avec le morceau « Tu remballes ton autoroute » par Planète Boom Boom, un collectif de techno qui fait uniquement des chansons avec des slogans de manifestation. Allez, on essaye de... espérant que ça vous redonne un petit peu la pêche. Et puis on se retrouve jeudi pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, portez-vous bien.
Faire des virées à Toulouse, depuis que t'es là c'est la loose. Tu nous traques pour une bonne baisse, c'est l'autoroute du malaise. T'es relou, ça se fait pas, forcer ça fait du delga. Tu nous l'as fait à l'envers, ton plan 6-9 c'est l'enfer.
Les olimides accueillantes, on comprend que ça te tente. Mais quand on dit non c'est non, consentement c'est pas une option. Ton gros axe, rien à foutre, on préfère mater les loutres. Cueillir des cèpes dans les bois, que de tout raser pour toi. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non, c'est non. Et quand on ne sait pas, on garde ses plans pour y pour soi. Quand c'est oui, c'est oui. Quand c'est non.
Parce que des informations, il y en a plein, hein. Par exemple, bon, il y en a plein, hein. Les informations, ça manque pas, mais il faut choisir, hein, pour les dire.
Des nouvelles du monde.
Revue de presse, de médias libres ou pas, interview, communiqué. Les nouvelles du monde, c'est avant tout un regard critique sur l'actualité, du local à l'international.
Mais que se passe-t-il?
Les nouvelles du monde, c'est tous les mardis et jeudis à 12h30 sur Radio Escapade, rediffusion à 19h30. Et pour y apporter votre contribution, info@radioescapades.org.